Je te passe la parole, comme ça tu es présente. Et puis,
Donc je me répète, hein, je vous remercie de la part de Science Action de votre présence ici. Et je vais laisser chaque personne se présenter. Nous avons trois intervenants auxquels vous pourrez adresser vos questions. Chacun va peut-être dire un petit mot. On commence voilà, dans ce sens, peu importe.
Allez-y. J'ai le micro. Donc Laurent Juratic, je suis ingénieur forestier. J'ai travaillé pendant une trentaine d'années à l'ONF, l'Office national des forêts, dans la région Rhône-Alpes, et notamment sur Chambéry. Et je suis en retraite depuis 4 ans. Mais je m'intéresse toujours aux arbres néanmoins. Voilà.
Bon, je ne suis pas de l'ONF. Alors Jean-André, moi j'ai enseigné un peu à l'université. Et pour faire court, j'ai travaillé sur les forêts d'altitude, la régénération et les champignons.
Bonsoir à tous, Sébastien Laguet, je suis garde forestier sur le bassin chambérien à l'Office national des forêts et pas encore en retraite. Donc mon travail de tous les jours, c'est gérer les forêts autour d'ici. Et mon dada, c'est la biodiversité, les animaux, les oiseaux, les chauves-souris, les mammifères, grands et petits, et puis les vieux arbres, voilà.
Voilà, donc ce film était très riche en informations, il m'a semblé. Vous aurez sans doute des questions à adresser. Là, qui veut commencer? Alors, je vais peut-être monter mon micro, je ne crois pas qu'il y en ait d'autres. Allez-y. Qui veut répondre?
Il y a un bouton, faut appuyer sur un bouton, ça va?
Non,
oui, ben l'étude de l'écologie, l'écosystème, c'est essentiellement l'étude des interdépendances entre le chevreuil et l'arbre, entre l'arbre et le champignon, entre l'homme. Je veux dire que l'écologie, c'est essentiellement l'étude de toutes les interdépendances. Je répète, l'interdépendance entre les grands mammifères, les carnassiers, les arbres, les sous-bois, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Comme ici, comme maintenant, chez nous. Si je suis tout seul, je ne vois rien. Si vous êtes tout seul, je ne parle pas. Si on est ensemble, on échange. C'est extrêmement simple, c'est la société.
Oui, alors c'est une. On démarre fort là, hein, sur cette question. Effectivement, on a des interdépendances et ça a été montré dans les films, notamment dans le milieu forestier. Mais ce que je voudrais quand même préciser, c'est que on a eu un éclairage sous un aspect de ces forêts, notamment dans le film de Peter Wohlleben, sur les forêts naturelles, avec, on va dire, un focus qui dit la forêt naturelle avec cette liaison sous forme, enfin cette présentation assez anthropomorphique de la forêt qui est l'arbre mère, les arbres fils, on pourra y revenir. Mais il faut savoir qu'il y a quand même des systèmes de forêts plus artificielles qui fonctionnent. Les forêts des Landes, par exemple, les Landes de Gascogne, chez nous, c'est une forêt artificielle qui a 150 ans, un peu plus de 150 ans, 200 ans, et qui actuellement fonctionne, sans problème de particulier de parasites ou autres. Donc il faut voir tous les aspects.
Bien. Quelqu'un ?
Alors ça, c'est une autre question. Ça, c'est... Non, mais si vous voulez, la question sur l'aspect d'une stabilité du système, c'était la réponse que j'apportais sur la biodiversité. Il est évident que des forêts plus mélangées, feuillues, résineux, comme on a plus dans nos régions, et ça, c'est aussi dû à la spécificité, on va dire, du relief qui nous impose ça, on a une biodiversité qui est bien plus importante. Mais en termes, ce qu'il faut bien penser, c'est que tout est lié et on travaille aussi dans une économie. Dans le film, on nous parle des 7 milliards d'habitants. Moi, quand j'étais à l'école, on apprenait qu'on était 3 milliards et demi. OK ? Ma grand-mère me disait, c'est incroyable, quand j'étais à l'école, on nous parlait de moins de 2 milliards. Et quand on était à moins d'un milliard d'habitants sur la planète, on peut faire un peu ce qu'on veut. On va dire que la planète tamponne le tout. Là, actuellement, on a des gros besoins en bois. Et donc, une forêt naturelle, actuellement, qui serait laissée, comme le propose Peter Wohlleben, à croissance libre et sans récolte ou très peu de récolte, permettrait pas de répondre aux besoins de la société de 7 milliards d'habitants. Ou bien, à défaut, il faut qu'on soit assis sur tout ce... On accepte d'être sur des chaises en plastique, de ne plus avoir d'huisserie en bois, de... Ah ben si, bien sûr.
Juste pour vous répondre, moi je me disais que j'avais un sacré coup de bol d'être dans un public et de ne pas être justement à Mont-de-Marsan pour faire ce que je fais tout de suite, là, mais d'être en montagne, en futaie irrégulière, en futaie jardinée, ce qu'on fait tous les jours. Mais quand même, pour répondre à votre question pour, dans les Landes, effectivement, ce n'est probablement pas une forêt très bien au niveau de la biodiversité. Sachez seulement qu'il n'y a pas beaucoup d'essence qui pousse à part ce pin maritime. Toutes les autres, elles n'arriveraient probablement pas à croître aussi vite, à croître aussi bien et à nous donner tout ce qu'on aurait besoin. Voilà. Et sachez aussi que une espèce un petit peu emblématique a été trouvée pour la première fois dans les Landes et nicheuse dans un pin maritime, c'est la grande noctule. C'est une chauve-souris, la plus grande chauve-souris de France. On l'a trouvée justement dans un pin maritime, dans un trou de pic. Et elle avait son gîte, c'était plusieurs femelles, elles avaient leur gîte de parturition à l'intérieur de ce pin. Voilà. Tout ça pour dire qu'il peut y avoir de la biodiversité, même dans des endroits où on la soupçonne la moins.
Je vais juste dire un mot sur cette biodiversité en rapport avec l'homme. Si vous vous promenez dans une forêt monoculture, même âge, vous ne ressentez pas du tout la même chose que si vous prenez dans une forêt dite jardinée, c'est-à-dire avec toutes les mixtes, avec tous les classes d'âge. Et là, vous ressentez quelque chose, la relation avec la nature. Tandis que lorsque vous êtes dans une forêt très artificialisée, vous n'avez pas ce rapport-là. Vous n'avez pas ce sentiment d'appartenir à la nature ou de communiquer avec elle. Et je pense que là, c'est un point de vue de la biodiversité qui est au-delà du fonctionnement, etc., ou des listes d'espèces, etc., nous interpelle. La biodiversité, pour se sentir dans quelque chose de naturel, il faut que ce soit divers. Un champ de blé, ce n'est pas la biodiversité. Une forêt des Landes, ça produit, bien entendu, etc., mais ce n'est pas là où on va se trouver en communication. Voilà ce que je voulais dire, en termes de biodiversité, de rapport avec la nature.
D'autres questions ?
Je voudrais intervenir aussi au sujet de la morphologie du film. Je pense qu'il y a beaucoup de gens ici qui ont découvert que finalement, comme disait un grand forestier, que la forêt vivait en parasite de ses champignons. L'essentiel, alors je l'ai dit, au départ, ils auraient dû un peu présenter un arbre sans champignons, ses racines, ça n'existe pas. Sauf dans les tubes. Ça n'existe pas. Donc, il fallait d'emblée dire qu'il se passait des choses en dessous. Moi, quand j'avais des étudiants, je leur disais, pour bien comprendre la forêt, enlevez les troncs. Les troncs, c'est le plus massif, c'est le plus rentable au point de vue économique, mais ça ne vaut rien par rapport au reste en termes d'activité biologique. On a dans les troncs, bien entendu, mais pas. Ce qu'il faut regarder, c'est les racines, c'est-à-dire ce qui se passe sous terre, comme on l'a bien montré là, avec les champignons liés, etc. Et je disais à mes étudiants, si vous visitez une forêt et que vous n'avez pas les ongles noirs, vous n'avez rien vu. Il faut gratter l'humus. Si vous voulez comprendre la forêt, adressez-vous aux champignons. Alors là, ils nous ont présenté qu'un groupe de champignons, les mycorhizes, c'est-à-dire champignons associés aux racines, qui sont là essentiels pour la vie de l'arbre, et la relation entre les arbres, j'ai bien compris. Mais il existe d'autres types de champignons, les décomposeurs. Les mycorhizes, vous savez, c'est tous les chanterelles, les bolets, tout ça, tous les champignons qu'on a l'habitude de manger ou qu'on ont des gros chapeaux, disons. Mais il y a aussi les décomposeurs. Qu'est-ce qui se passe dans une forêt? Comment ça fonctionne? Ben, l'arbre, il fait la photosynthèse, fait entrer l'énergie et la matière. Il envoie tout ça au sol. Comment il fait entrer l'énergie et la matière? Grâce aux champignons dans ses racines, autrement, il ne pouvait pas se nourrir. Il ne se nourrit pas. Et qu'est-ce qui se fait quand ça tombe sur Terre? C'est décomposé par d'autres champignons. Je construis, disent les champignons mycorhiziens avec l'arbre, je démonte, je construis, je démonte. Je construis, je démonte. Et ça tourne. C'est ça le fonctionnement. Donc pour comprendre le fonctionnement d'une forêt, il faut s'attacher aux champignons.
D'autres questions? Non. Avez-vous d'autres commentaires ou non?
Je peux rajouter un commentaire pour revenir sur cette question de biodiversité et de forêts qu'on appelle, nous, en évolution naturelle, c'est-à-dire des forêts dans lesquelles on ne récolte pas d'arbres. On a bien pris conscience que il y avait un petit défaut dans la cuirasse, c'est que une exploitation sur la totalité de la surface sans laisser cette capacité de maintenir des forêts à l'état naturel, c'était pas tout à fait au top. Et depuis, je sais pas, une vingtaine d'années à peu près, on a créé ce qu'on appelle un réseau de 10 lots de forestiers. Donc c'est des petites surfaces de l'ordre d'un, deux ou trois hectares qu'on maintient en évolution naturelle, c'est-à-dire dans lesquelles on ne fait aucune récolte pour permettre d'avoir un réservoir de biodiversité, et on répartit ça sur l'ensemble du territoire de façon à ce que ces îlots soient le plus efficaces possible et qu'ils soient dans tous les cas de figure d'orientation, de conditions de sol et de conditions climatiques. Et bon, pour l'instant, on n'a pas un recul extraordinaire sur la chose, puisque les forêts sont des milieux et des systèmes qui réagissent lentement. C'est-à-dire que quand vous avez une plantation de maïs, si vous êtes trompé de provenance par rapport au sol, l'année immédiatement, vous avez le résultat avec vos vos rendements qui sont pas au top sur la forêt. Et on a besoin d'avoir un recul de 10, 20, 30, 40 ans pour avoir un commencement de réponse. Il faut savoir aussi que nous, on est dans des échelles de temps où on va récolter... c'est plutôt de l'ordre du siècle, voire un peu plus. Hein. Bon, il y a quelques espèces qui sont récoltées à des âges beaucoup plus faibles. Mais quand je vous dis beaucoup plus faibles, c'est de l'ordre de 20 ans. 20, 25 ans sont les peupliers. Au-delà, on passe tout de suite plutôt 50 ans. On va se retrouver dans les pins ou les pins de Douglas, comme on vous a montré là, les Douglas dans le film. Et puis au-delà, nos essences plus locales, puisque le Douglas, c'est une essence du continent américain, elles sont plutôt de l'ordre de la centaine d'années et au-delà, sachant que ça peut aller beaucoup plus loin. Mais ce qu'on appelle l'exploitation économique, c'est-à-dire le moment où l'arbre commence à réduire sa croissance, on est entre 100 et 200 ans, on va dire.
Oui,
des coupes pour le besoin de voies de chauffage des habitants. Et dans les affouages, j'ai habité sur la tuile pendant 25 ans. Quand on travaillait avec le garde forestier pour faire la répartition des coupes d'affouage, il était de tradition avec le garde forestier de choisir un arbre qu'on laissait tous les, mettons, sur une, je sais pas, sur 50 mètres, mettons, il y avait toujours un gros arbre, un arbre remarquable qu'on laissait. Donc, sur une parcelle, il y avait une dizaine d'arbres qui étaient laissés. Est-ce que finalement, ça ne rejoint pas cette notion d'arbre mère, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, alors, ça existe toujours, enfin, j'espère, au moins partout en Savoie. Effectivement, quand on fait n'importe quel type de coupe, du reste, on essaye... la plupart du temps, sinon le plus souvent possible, voire toujours, de conserver des arbres. Ces arbres, ils peuvent nous servir à plein de choses. Ils peuvent d'abord nous servir, en général, ceux qu'on laissait, c'était souvent les plus jolis, les plus gros, qui pourraient produire des graines et du coup ensemencer les zones où on venait de couper certains autres arbres. Mais ça peut être aussi, et de plus en plus on le fait, je vais revenir sur ce que disait Laurent tout à l'heure, des arbres qui ont un intérêt plus pour la biodiversité, par exemple. Donc voilà, ça existe toujours en ce qui concerne la conservation, on appelle ça des balivaux, d'arbres dans les peuplements qui vont être coupés, dans les peuplements feuillus qui vont être coupés, par exemple, en affouage. Donc je reviens juste sur ce qu'il disait tout à l'heure à propos du réseau écologique intraforestier, pour que peut-être essayer un petit peu de mieux vous imaginer ce qu'on voudrait. Suite au Grenelle de l'environnement, l'État français a demandé à l'ONF de produire plus de bois, tout en préservant mieux la biodiversité. Pour préserver mieux la biodiversité, la solution qu'on a imaginée et qu'on est en train de mettre en œuvre et qui vient de vous être expliquée, c'est imaginer un massif comme le massif des Bauges, sur lequel vous auriez tout à l'est une grosse réserve biologique. Ça tombe bien, il y en a une, c'est la réserve du Haut-Chéran. C'est une zone qui fait plus de 300 hectares, si mes souvenirs sont bons, sur laquelle on a posé définitivement une cloche et dans laquelle on ne fera plus jamais rien. Imaginez qu'il y ait la même chose tout à l'ouest, par exemple à la Fécla, elle n'existe pas encore, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. Imaginons qu'on ait une espèce un petit peu particulière ou rare qui se trouve dans le Haut-Chéran, mais qu'on n'est encore pas sur l'ouest des Vosges, ou qu'on n'est déjà plus. L'idée de notre réseau écologique intraforestier, c'est au travers de toutes les forêts, des collectivités qui se trouvent entre les deux, de créer ce qu'on appelle des îlots de vieux bois. Sont des îlots qui font 2, 3, des fois 5 hectares, qui vont être dispatchés dans différents endroits de la forêt, si possible là où elle est le plus mature et où on n'a pas fait de coupe depuis le plus longtemps possible. Je vous expliquerai après aussi pourquoi. Et entre ces îlots, dans les parcelles gérées traditionnellement, on va essayer de garder au moins 3 arbres bio, donc c'est des arbres soit des arbres déjà morts sur pied de diamètre suffisant, soit des arbres avec des cavités, avec des nids de rapaces, avec des fentes, avec des écorces décollées, j'en passe des meilleurs. Des fois, ça peut être aussi des arbres simplement qui sont très jolis d'un point de vue paysager. Ça peut être les arbres présidents des forêts qui bientôt vont mourir, enfin dépérir et mourir, et fournir du bois mort pour les espèces qui en dépendent. Et ce qu'on espère, c'est que les espèces en question pourront passer de la RBI là-haut du Haut-Chiran via nos arbres bio isolés, en passant par les îlots de sénescence et de proche en proche aller jusqu'à l'ouest des Bauges pour retrouver peut-être leur aire de répartition originelle. Voilà. Oui, une RBI, excusez-moi, c'est une réserve biologique intégrale. Donc tout ça, enfin, donc c'est une réserve de grande taille sur laquelle on a mis une cloche. Et j'en profite pour vous dire, parce que peut-être vous ne le savez pas, que l'ONF est le gestionnaire de la surface la plus importante en France de zones mises définitivement sous cloche, évidemment de zones forestières.
J'avais une question, on en a parlé tout à l'heure, sur ce qui attaque nos forêts en ce moment. Donc là, on sait bien, tous les buis ont pratiquement disparu autour de Chambéry. Donc ma question, c'est, est-ce que vous avez de l'espoir pour que ça s'arrête? Donc les mésanges ou autres oiseaux commencent à manger toutes ces chenilles. Et puis qu'est-ce qui va devenir, je pense par exemple, aux coteaux de la Dent du Chat, de la montagne de l'Épine qui sont juste au-dessus du lac? Qui sont complètement dévastés, s'il pleut beaucoup, s'il y a d'érosion, est-ce qu'il y a danger, est-ce que ça va se régénérer tout seul, enfin, qu'est-ce qui va se passer?
Je garde le micro deux minutes. Ouais. Alors, notre travail de tous les jours, il n'est pas simple, on ne sait pas ce que la nature va faire. En tout état de cause, il y a 3-4 ans en arrière, sont arrivés simultanément deux maladies, plus un insecte un peu particulier, et qui venaient quasiment toutes d'Asie. D'Asie. Une qui touchait le frêne, qu'on appelle la calarose, une autre qu'on appelle le synips, qui touchait le châtaignier, et enfin une dernière qui s'appelle la pyrale du buis, pardon, et elle qui mange le buis. Grâce aux échanges commerciaux internationaux, on a profité d'une super bestiole, je reste sur le buis, qui arrivait chez nous, a trouvé de quoi se nourrir à provision, sans avoir de prédateurs naturels. Donc, chaque année, et encore plus d'ailleurs chez nous, puisque le climat visiblement lui plaît encore plus, plus chez nous que où elle habite traditionnellement, elle vient de l'Asie, vers la Chine, voilà. Et elle peut se reproduire, a priori, encore plus de fois chez nous dans une année que chez elle là-bas. Donc vous imaginez un papa, une maman au début d'année, eh ben, au lieu de faire seulement une génération, elle peut en faire deux, donc des centaines de milliers de nouvelles chenilles qui vont elles-mêmes en faire encore des centaines de milliers, etc. etc. Et ce qui fait ce que vous observez ou ce que vous avez peut-être pu observer ces dernières années et qui risque malheureusement de se poursuivre, la neige au mois de juin-juillet quand les papillons s'envolent autour de chez nous. Voilà, donc cette chenille, il n'y a aucun moyen de lutte à grande échelle contre elle, qui ne coûterait pas grand-chose et surtout qui ne ferait rien risquer à l'eau potable. Voilà, alors on va laisser la nature faire. On a l'impression de plus en plus que certains oiseaux en mangeraient. Tant mieux. On n'est pas sûr, mais on a aussi l'impression que des chauves-souris pourraient en manger. Tant mieux, on va aussi laisser faire. Mais voilà, on ne sait pas ce que ça va donner. En tout état de cause, on se pose des questions. Et effectivement, quand vous vous mettez sur les plages d'Aix-les-Bains et que vous regardez plein ouest, en face de vous, sous la chapelle du Mont du Chat, vous avez un massif. Qui est une buxaie sur la. Enfin, il n'y a que ça probablement qui pousse avec quelques chênes pubescents à gauche, à droite. Si tous les buis finissent par mourir, ce qui risque d'arriver. Je ne parle pas des incendies. Mais la question qu'on se pose, c'est que va-t-il devenir de l'érosion des sols, de la chute de blocs, peut-être de la pollution de nappes phréatiques, voilà. Ça, on n'en a aucune idée. Et si on rajoute par là-dessus le réchauffement climatique, qui pour le moment, on sait qu'il arrive, mais on ne sait pas ce que nous, il va falloir qu'on fasse pour, dans 120 ans, on est en perpétuel questionnement.
Non, je vais intervenir, mais sur un tout autre sujet.
Oui, ce qu'on là, ça vous paraît peut-être passéiste de dire on attend, mais ce qu'on constate en général, c'est qu'il y a une régulation au bout de quelques années de ces phénomènes, mais quelquefois quand le mal est fait. Et notamment les buis, on a vu une attaque une année, ils peuvent repartir, une attaque 2 ans, 3 ans, on ne sait pas du tout ce que ça va donner. Et là, moi je voudrais simplement faire une petite digression. J'entends souvent les gens se plaindre des contrôles aux frontières, des douaniers, etc., sur le transport de végétaux, le transport d'animaux, le transport de bananes, par exemple, qu'on a cueillies ou autres. On trouve ça complètement aberrant. Et ben, c'est le résultat, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Hein. La pyrale, c'est un passage aux frontières, tout bêtement. Donc, soyez conscients que ce n'est pas pour vous embêter, c'est pour essayer de limiter des choses que, de toute façon, on sait, arrivent un jour ou l'autre. C'est le transport de ces parasites. Il y a, par exemple, l'essence l'orme a disparu en France dans les années 70-80 par la graphiose, qui est un champignon véhiculé lui-même par un insecte, un scolyte. Et bien, cette graphiose, elle était arrivée sur le continent européen bien des années avant, mais depuis le continent américain, avec des caisses qui étaient en bois infecté par le champignon. Et ici, autant dans les zones d'où sont issus les parasites, ces parasites ont leurs prédateurs et donc il y a des équilibres qui se forment. Quand ils arrivent dans un milieu neuf, et ben là, ils s'en donnent à cœur joie parce qu'ils n'ont pas les prédateurs, au moins les premières années, et petit à petit, ça va se réguler.
Oui, je voulais vous poser une question concernant ce que vous venez de dire aussi pour l'autre parasite du châtaignier, le cynips. Je sais qu'il y a eu des lâchers de taurimus qui sont un insecte qui régule la population des cynips. Est-ce que vous pouvez nous donner l'information, savoir s'il y a eu des résultats déjà?
Ouais. Alors, le taurimus, c'est une espèce qui vient aussi d'Asie. Et donc, je ne connais pas tous les tenants et les aboutissants, si seulement. Mais tout ça pour vous dire que ce que j'en sais, c'est que depuis que le cynips avait été signalé en Europe, l'INRA, donc en Ardèche, travaillait dans des serres fermées à essayer de trouver un moyen de lutter contre ce cynips sans que ça fasse encore plus de dégâts sur la biodiversité. Et donc, ils avaient observé dans les pays asiatiques que ce taurimus était prédateur du cynips. Et donc, ils l'ont mis dans des serres avec de la végétation ardéchoise. Et pendant plusieurs années, ils ont regardé si ça ne faisait pas de dégâts autres sur d'autres espèces. Ça n'en a pas fait, donc ils ont eu l'autorisation du gouvernement pour pouvoir autoriser des lâchers de taurimus. Alors moi, la seule chose que je peux vous dire, puisque la commune de La Motte l'a essayé dans une de ses forêts, c'est que on pensait couper des arbres juste quand le taurimus est arrivé. Là, maintenant, ça va faire 3 ans. Et plus j'y retourne, plus je me dis qu'on a bien fait de ne pas couper les arbres, parce que la plupart, quand même, arrivent à repartir, ne sont finalement pas complètement morts. Et j'ose espérer même qu'ils vont résister et finalement que ça va faire grâce à ça. Voilà.
Alors, on le voit également dans le documentaire, les plantes ont cette capacité d'adaptation et de réponse à l'agression. Elles peuvent même transmettre à tout le réseau l'information comme quoi agression il y a et mettre en place une parade. Que ce soit pour la pyrale du buis, puisqu'on on est dans la deuxième année, on peut espérer aussi, ou peut-être plus, hein, moi je le constate depuis deux étés que ça part dans tous les sens. Est-ce qu'on peut espérer que la plante également mette en place une parade, s'adapte, trouve un...
Ben moi, j'espère. Je ne peux pas vous dire mieux. Je croise les doigts que ça fasse. En tout état de cause, j'en ai carrément aucune idée. Je peux pas vous dire. Je vois pas trop quelle parade. Je vais simplement pour vous illustrer un petit peu ce qui se passe sur une autre espèce qui est l'épicéa commun, notre sapin de Noël, quand il est attaqué par le scolyte. Le scolyte, c'est un tout petit insecte qui perfore son écorce. Qui va se mettre juste sur son cambium et qui du coup coupe les réseaux résinifères de l'arbre. En fait, c'est comme s'il lui coupait ses veines. Et du coup, quel que soit le diamètre de l'arbre, peut le tuer en quelques semaines. On observe très régulièrement, quand on a une attaque comme ça et qu'elle n'est pas trop grosse d'un coup, qu'on a quelques arbres côte à côte qui vont finir par très rapidement rougir puis mourir. Mais étonnamment, les arbres à côté n'ont rien et n'auront définitivement jamais rien. Et quand on regarde un petit peu ce qui se passe précisément, souvent, les arbres voisins ont plus de résine que les autres. Et en fait, cette résine, quand l'insecte essaye de perforer l'écorce, la peau de l'arbre, ils sont englués dans la résine. Alors, je vais vous donner un autre exemple pour vous dire que ça n'arrive pas seulement à ces petits insectes. Pas plus tard que cette année, on a des collègues vosgiens qui travaillent sur les petites chouettes de montagne et qui ont malheureusement pour elles trouvé dans un sapin qui avait été creusé par un pic dans lequel il avait fait sa loge et il avait fait ses petits. L'année suivante, donc cette année, on a trouvé une nichée de petites chouettes, des bébés, je ne me rappelle plus d'ailleurs si c'était des chevêchettes ou alors des tegmalmes, mais qui étaient complètement englués dans leur trou, en plein milieu du tronc de l'arbre, et qui étaient mortes engluées. Voilà. Comme quoi ça peut arriver à des petits insectes, mais à des plus grosses bêtes aussi.
Pour répondre à cette question, est-ce qu'on va avoir les mêmes réponses pour la pyrale ou pour d'autres attaques? Ce que moi je soupçonne, c'est que ces réponses qu'on a vues par les réseaux et les réponses des arbres, c'est issu d'une évolution, et une évolution qui est très lente, et une sélection naturelle qui fait que n'ont résisté que les arbres qui avaient cette réponse, et la sélection naturelle a fait que on a retrouvé un équilibre, mais que j'ai bien peur que à l'échelle maintenant, si vous voulez, tous les phénomènes s'accélèrent. On a vu par exemple que les migrations de parasites prennent l'avion ou le bateau, et donc en quelques semaines on fait des milliers de kilomètres. J'ai bien peur que nos essences, nos espèces, elles n'aient pas le même pas de temps, et que, comme pour l'orme par exemple, il y en ait qui soient condamnés par ces infestations d'espèces nouvelles, hein, d'espèces de prédateurs nouveaux.
En termes de perturbation, qui veut dire une dynamique, moi je ne me fais pas trop de soucis. C'est par rapport à l'homme, bien entendu, par rapport à l'érosion des sols, par rapport à la production forestière. Bien entendu, il faut se faire du souci. Mais en termes de nature, moi, je ne me fais aucun souci. Tout se passera bien, merci. Alors, naturellement, il faut toujours relativiser par rapport à l'homme, puisqu'on utilise cette nature. On la domine, parfois bien, parfois pas bien. Mais en termes de nature pure, elle sera encore là bien après nous, avec la pyrale ou non. D'accord, on est bien d'accord qu'on relativise toujours, et parfois pour regarder la nature de manière absolue. Maintenant, pendant que j'ai le micro, je vais le garder une petite seconde, enfin, à moins qu'il y ait quelqu'un qui...
Vas-y, après, vas-y.
Oui. Petite seconde, parce qu'on a pour parler des aspects positifs. Hein, les arbres qui communiquent, qui s'entraident, etc. Donc, moi, je souhaitais vous raconter une petite histoire un peu négative, mais pas négative, toujours en termes d'hommes, etc. Via les champignons, il existe des luttes féroces entre les espèces. Par exemple, on a étudié ça à l'Université de Savoie, par exemple, entre l'épicéa et la myrtille, qu'est-ce qui se passe? Quand il y a beaucoup de myrtilles, il n'y a pas d'épicéa, pas de jeunes épicéa, ils ne peuvent pas s'implanter. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas d'arbre sans champignons dans les racines. Si l'arbre n'arrive pas à prendre ses champignons, il ne s'installe pas, point, terminé. Alors qu'est-ce qui se passe au niveau de cette lutte sournoise, qui se passe au niveau des champignons? Eh bien, ce sont les champignons des myrtilles qui exudent des composés s'opposant aux champignons de l'épicéa. Conclusion, la myrtille, lorsqu'elle est dense, fabrique un humus où ils peuvent s'exprimer ces extraits biochimiques qui vont empêcher le jeune semis, l'épicéa, de prendre des mycorhizes, donc de s'installer. Donc, il n'y a pas des luttes simplement en-dessus, etc. Il y a aussi des luttes sournoises en-dessous, très complexes à mettre en évidence. Alors, ce n'est pas nous qui avons mis en évidence, bien entendu. Quand on fait de la recherche, il faut lire. C'est dans les années 60, que ça a déjà été écrit. Mais seulement, ça n'avait pas été démontré au point de vue scientifique, avec des molécules, etc. On a vu que les champignons des éricacées, des émettaient des substances qui s'opposaient aux champignons des arbres. L'arbre, pas de champignons, ne s'installait pas. Intéressant.
Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir? Non. Oui, je vous apporte le micro.
Ben, le problème, ce n'est pas tant les gens qui sont intéressés. Le problème, c'est la place pour les faire travailler. Et comme beaucoup d'administrations, on est en réduction d'effectifs. Donc, on laisse partir des gens à la retraite sans qu'ils soient renouvelés. Voilà. Mais des jeunes qui veulent faire notre travail, on en a. Enfin, là, sur le bassin chambérien, je ne vous donnerai pas le nombre de demandes de stage qu'on a tous les ans. C'est la folie. On ne peut pas prendre tout le monde, mais oui, ouais, y a plein de gens qui voudraient bien faire notre travail.
Normalement, comme il faut de l'argent.
Les métiers ont changé évidemment entre la création de l'administration des eaux et forêts qui date du milieu du 19e siècle où là on a créé une administration de garderie pour préserver le patrimoine parce que la forêt était en train de partir à volo après la Révolution. Jusqu'à maintenant où on a plutôt des gens qui sont des gestionnaires qui prennent en compte quand même les contraintes environnementales. Moi, quand j'ai débuté, la première loi sur la protection de la nature avait 2 ans, 1976. Avant, il y avait zéro mesure de protection de la nature, sauf le code forestier, si vous voulez. Et donc, maintenant, on a quand même une évolution avec des spécialisations. On a une montée en puissance et en gamme des personnels, c'est-à-dire que le niveau est bien supérieur. On a aussi, en contrepartie, comme disait Sébastien, on a de moins en moins de personnel. Et du coup, on a des personnels qui vont avoir une vue plus globale sur un territoire plus important, mais du coup une connaissance un peu moins fine de leur territoire lui-même parce qu'ils en ont plus. Quoi. Moi, quand j'ai débuté ma carrière, un agent forestier, il avait 1000 hectares en gestion. Maintenant, c'est plutôt de l'ordre de 5000, je crois, à peu près. Ouais. Hein, je ne sais pas combien tu en as, toi, mais tu en as moins parce que tu es en zone périurbaine et qu'il y a d'autres problématiques, quoi.
Pour répondre à la question, oui, bien entendu, les choses ont évolué. Moi, j'ai connu, je ne suis pas tout à fait très vieux, mais quand même, l'ONF, qui ne connaissait pas la forêt, on peut le dire. Il connaissait l'arbre, mais pas la forêt. Maintenant, l'ONF connaît la forêt. C'est-à-dire, dans la formation, il y a eu une évolution. Et de cette évolution vient des pistes nouvelles, des pistes de réflexion, des pistes de type de gestion. Le gros problème, c'est les financements. La forêt, elle n'a plus d'argent. Elle n'a pas assez d'argent. Bon. Toute conclusion, on ne peut pas employer du monde. Hein, on réduit les effectifs. Et si vous avez un arbre, vous savez, à la mode tarvolesque, il y a ce qu'on appelle un martelloscope. C'est-à-dire un endroit où on simule une gestion. Au lieu de couper un arbre, on dit, tiens, celui-là, je le coupe. Tiens, celui-là, je le coupe. On marque sur un cahier. D'accord ? Donc, il y a une évolution dans ce sens-là. Vous pouvez rester 20 minutes devant un arbre en disant est-ce qu'on le coupe, est-ce qu'on ne le coupe pas, bien entendu. Vous réfléchissez, là, vous avez arrivé au bout d'un jour, vous avez fait un hectare, vous avez très bien géré la forêt. Forestier qui fait ça, il ne peut pas rester 20 minutes devant un arbre, ce n'est pas possible. Quand il a 5000 hectares à gérer, il va passer très rapidement. Conclusion, il peut faire des erreurs. Alors moi, je ne dis pas. Alors, dans la formation, on va former les gens correctement, mais sur place, ils ne pourront pas faire le travail correct. Ils n'ont pas le temps. Quand on a géré 5000 hectares, on n'a pas le temps de rester 20 minutes sur un arbre. Ça, c'est dommage. Il faut multiplier les agents, réduire les surfaces. Le problème, c'est une question de financement. Je m'en souviens qu'on a été voir le type, Saint-Jean d'Arvais. L'État est obligé d'aider l'ONF qui n'arrivait pas à se financer. C'est quand même dommage, alors que notre forêt n'est pas encore suffisamment exploitée. Moi, je suis un grand protecteur de nature. Mais la forêt, en France, n'est pas suffisamment exploitée. On importe des arbres du Nord moins chers, qui font des kilomètres en avion, en bateau et tout ça, en camion, moins cher que chez nous. Là, il y a un problème. Il y a un problème de financement. La forêt française est belle, grande, elle est sous-exploitée. Je ne dis pas qu'il faut la surexploiter, elle est sous-exploitée par rapport à ses capacités. Et on exploite d'autres forêts du Nord, là où c'est encore plus dangereux pour les forêts, parce qu'une forêt au nord de la Suède, elle met beaucoup plus longtemps à pousser qu'une forêt chez nous en plaine. Alors là, il y a un problème de finance.
Moi, j'avais juste une autre petite question. Est-ce que c'est l'ONF qui peut intervenir sur la décision d'abattre des arbres, par exemple, dans la ville ou... Comment vous savez si un arbre est malade et pourquoi on le couperait et voilà. Quelle est votre intervention à ce niveau-là?
Alors, pour faire très simple, nous, ce qu'on gère, c'est les arbres dans les forêts publiques. Déjà, pour que vous ayez tous un petit ordre d'idée, quand vous vous promenez dans les forêts françaises, vous avez seulement une chance sur trois de vous promener dans une forêt publique. Deux chances sur trois de vous promener dans une forêt qui n'est pas gérée par nous et qui appartient à votre voisin, le grand-père de votre voisine, etc. Ça, c'est la première chose. La deuxième, Jean vient de le dire, il nous manque très régulièrement un peu de sous en fin d'année. L'État nous a autorisé à faire quelques prestations hors forêt. D'accord ? Ces prestations, c'est par exemple de l'expertise arbre-conseil, ce dont vous parlez, à savoir que des gens volontaires chez nous sont allés passer des diplômes, les mêmes diplômes que les experts forestiers qui font des études d'arbres en ville dans des écoles spécialisées. Et à la sortie de ces écoles et ayant les diplômes, ils ont le droit maintenant d'aller faire des expertises sur des arbres en ville. Je me rappelle d'un fait un peu marquant où une dame, c'est Vercurial, qui avait eu un gros souci avec un arbre qui lui était tombé dessus il y a quelques années en arrière, où on avait demandé à l'ONF de venir expertiser les arbres. Et en effet, alors que d'extérieur, on ne voyait pas grand-chose, en fait, à l'intérieur, ils étaient creux, ce qu'on vous a expliqué tout à l'heure dans le film. Donc, l'ONF fait son expertise. Son expertise, c'est quoi? C'est de dire oui ou non, je pense que cet arbre peut être dangereux pour le public, pour une maison, pour un bâtiment, etc. charge après, la décision relève de celui qui a fait faire l'expertise, savoir s'il va les enlever ou non. Nous, on n'a rien le droit d'imposer, on donne seulement notre avis d'expert. Voilà. Comme tout autre expert qui viendrait faire cette intervention. Voilà.
Du coup, j'ai deux questions. Pour en revenir à nos platanes, on va commencer par là. Donc, est-ce que l'ONF est réellement réintervenu ces derniers mois sur cet alignement du boulevard de la Colonne ou est-ce que vous n'êtes pas venu ?
Alors, je m'excuse. Je n'étais même pas au courant. Tout à l'heure, j'étais assis à côté d'une dame qui m'en a parlé, mais je ne suis absolument pas au courant de cette affaire. Donc, je ne peux pas vous dire si mon collègue est venu ou revenu ou re-revenu. Je ne peux pas vous dire. Je ne sais pas du tout. Lui, il fait son travail d'expert et voilà. Même je peux pas. Je ne sais pas.
La deuxième question. En astrophysique, ils n'ont pas beaucoup de crédit non plus pour faire la recherche. Et ils ont des accords avec des associations d'amateurs pour observer les étoiles. Et je me demandais si l'ONF, dans sa mission de protection de la forêt, avait des accords de même nature avec des associations type LPO, type Conservatoire de la faune sauvage, pour prendre le temps de passer une heure en dessous d'un arbre pour savoir si dans ce trou de pivert il y a une chouette qui est venue nicher et si cet arbre-là peut être un habitat pour un mammifère ou une espèce rare. Voilà. Des partenariats.
Ouais. Alors, bien entendu, on en a. J'ai même la chance, moi, au niveau national, de travailler avec la LPO sur les petites chouettes de montagne, dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est pas pour ça qu'on va au pied de tous les arbres pour regarder où ça en est. Juste par rapport à ce que monsieur disait tout à l'heure, dans les années 70, quand mes collègues, qui vont partir en retraite là maintenant, passaient le concours de l'ONF, désolé pour tous les nostalgiques de la forêt d'avant, quand ils ne marquaient pas, donc ils avaient un exercice de martelage fictif dans une zone de forêt, et quand ils ne marquaient pas l'arbre mort qui était bien laissé au milieu de la parcelle, ils n'avaient pas le concours. D'accord, c'est-à-dire qu'ils n'intégraient pas l'ONF. Enfin, c'était les OFO. Non, c'était déjà l'ONF. Voilà. D'accord. Aujourd'hui, alors on n'en est encore pas là, mais aujourd'hui, on s'oblige à garder au moins 3 arbres bio, c'est comme ça qu'on les appelle, par hectare, dont ces fameux arbres, à cavité de pic dans lequel il peut y avoir, alors les pics tout au départ, hein, c'est des super, c'est des constructeurs d'HLM pour une grande biodiversité qui vient après eux. Donc eux d'abord, et puis après toutes sortes d'oiseaux cavicoles, des chauves-souris, des loirs, des écureuils éventuellement, puis après des insectes, et enfin j'en passe, c'est des meilleurs, voilà. Donc, comme le disait tout à l'heure Jean, quand on martèle les arbres, qu'on est à 5 dans une parcelle de 15 hectares, 15 terrains de football, qu'en une matinée, il va falloir qu'on ait serpenté dans toute la parcelle pour pouvoir marquer les arbres à faire exploiter pour régénérer la forêt. Il arrive que certains on repère qu'ils aient des cavités. On n'a pas le temps d'y rester pendant une heure avec une association. On les marque en bio à ce moment-là. La plupart du temps, même, on leur prend une position GPS maintenant. Et on continue notre travail. Par contre, ce qu'on demande souvent aux associations, c'est quand eux connaissent des endroits dans la forêt où certains arbres sont potentiellement porteurs d'espèces rares ou protégées dans tous les cas, qu'ils nous le disent, parce que nous, on ne peut pas tout connaître. Tout à l'heure, moi, je vous disais que j'aimais bien les oiseaux, les chauves-souris, mais moi, je n'y connais rien en flore, enfin rien, vraiment pas grand-chose, en champignons, à part ceux qui finissent dans ma casserole, et il n'y en a pas beaucoup, parce que je ne les connais pas tous. En insectes, je n'y connais absolument rien, et vous ne pourriez pas... mettez-vous à ma place, je pense que vous ne pourriez pas non plus tout connaître d'une forêt. En tout état de cause, quand un naturaliste connaît quelque chose dans la forêt et qu'il pense qu'il va falloir qu'on y fasse attention s'il ne veut pas voir disparaître cette espèce-là, et ben le mieux, c'est de nous le dire au départ pour que nous, on puisse le prendre en considération pour nos coupes ou alors pour les travaux qui seront faits dans la parcelle en question.
Le gros problème, c'est que si on écoute tout le monde, ce qui serait souhaitable, on ne couperait plus un arbre. Parce que tout le monde va vous dire, ici, il y a quelque chose, il y a potentiellement quelque chose qui peut arriver. Si on attend encore 50 ans cet arbre-là, il y aura quelque chose dedans. Donc, il faut être réaliste. Il y a des choses qui sont connues. Bon, la LPO vient dire, moi, cet endroit, je sais qu'il y a quelque chose, etc. Mais on ne peut pas demander à tout le monde d'être sur tous les insectes, tout ça. C'est dingue, parce qu'à ce moment-là, il faudrait une armée de spécialistes, parce que pour connaître les insectes, par exemple, dans la forêt, mais il n'y en a pas beaucoup qui connaissent les insectes de la forêt. On en a 2-3 qui sont capables de vraiment tout connaître. On ne peut pas leur demander de faire ça. Et un autre qui viendra qui dira, moi, je suis les chauves-souris, moi, il y a tel lichen, moi, il y a telle mousse, il y a telle punaise qui pique les branches, etc. Donc on ne ferait plus rien. Donc, forcément, en exploitant la nature, on est obligé de faire des dégâts. Comme disait quelqu'un de Pro-Sylvain, on coupe les arbres, on tue les arbres. Et il y a un mot d'un vieux chasseur de la forêt de Soux qui était merveilleux. Il a dit, on est obligé de couper les arbres. Il faut couper des arbres. Il faut que la forêt soit rentable. Si la forêt n'est pas rentable, craque, on la coupe, on met du maïs. Moi, je préfère une forêt au maïs. De toute façon, le maïs, c'est fait pour bouffer aux vaches. D'accord. Il a dit ce truc. Quand on coupe un arbre, ça ne se voit pas. Quand on coupe un arbre, ça ne se voit pas. On l'a coupé, on l'a prélevé, on fait du pognon. Ça ne se voit pas. Mais on est obligé de couper quand même. Et peut-être que l'arbre qu'on a coupé, potentiellement, il y a quelque chose dedans. Donc, on est obligé de faire des sacrifices. On tue. Bon, on tue, on mange, on tue, on se fait du pognon, c'est obligatoire. Il faut être réaliste.
Une question encore ?
On entend dire que la forêt progresse en France. Du fait sans doute de la réduction de l'élevage. Est-ce que c'est propre à la montagne ou est-ce que c'est général en France?
C'est général. Hein, la surface boisée en France est le double de celle qu'elle couvrait en 1830. La forêt a doublé en surface. Alors c'est dû pour beaucoup à de l'exode rural, c'est-à-dire que vous avez par exemple des départements comme qui sont dans les plus boisés de France, c'est le Var, par exemple, contrairement à ce qu'on pourrait croire, mais le Var, mis à part la côte où vous avez une forte urbanisation, tout l'arrière-pays, c'est que des villages abandonnés et c'est tout boisé. Et puis, il y a eu une grande politique de boisement en France après la Seconde Guerre mondiale, avec le Fonds forestier national qui a aussi poussé à augmenter les surfaces forestières. Mais c'est clairement, en surface, ça a augmenté. Et ce que disait Jean aussi, c'est que la forêt en France est sous-exploitée. C'est-à-dire qu'elle produit plus de bois qu'on en récolte. Notamment en Rhône-Alpes, où on récolte moins de la moitié de la production de la forêt. Donc chaque année, le volume de bois sur pied augmente en zone naturelle.
Oui, je voudrais apporter un témoignage par rapport à mon père qui a été forestier à partir de 56 jusqu'en 92. Et notamment, il a eu à gérer la forêt de Chamonix pendant 18 ans. Et quand je vois ce film, ça m'envoie un peu l'idée de mon père qu'il avait de la forêt aussi, la gestion bien sûr traditionnelle de la forêt, mais aussi la dimension écologique. Il a toujours eu à cœur de gérer la forêt en ayant cette idée-là. Donc à l'époque, donc c'était en 65 qu'il est arrivé, ce qui n'était pas évident non plus. Donc il a fait beaucoup, il a quand même eu toujours à cœur cette dimension un petit peu de protection de la nature. Notamment, il a été aussi à l'initiative de la création de la réserve des aiguilles rouges avec Jean Hérald. Voilà. Donc il a quand même fait pas mal de choses et il y a des choses que j'ai vues dans le film et que j'ai pu voir à l'époque après cette dimension-là. Donc c'était pas évident de le faire avec l'esprit de l'ONF d'alors. Voilà. Donc ça rejoint un petit peu tout ça. Donc ça me fait plaisir de voir ce film. Voilà.
Oui, ce témoignage me parle. Ça, c'est et effectivement. Les gens qui avaient à l'époque de votre père donc des, ce qu'on appelait des triages de petites dimensions, ils connaissaient quasiment tous leurs arbres. Mmh. Ils avaient une relation, là on a vu, surtout dans le premier film, les éléments sur la communication avec les arbres ou autres, il y en avait qui avaient cette dimension. Moi, je vous avouerai que pendant ma carrière professionnelle, j'ai vu plus des mètres cubes que des êtres vivants. Maintenant que je suis en retraite, j'ai changé. Et je vois plus des êtres vivants que des mètres cubes. Ou en tout cas, derrière les mètres cubes, je vois les êtres vivants. Et j'ai ce qui était dit dans le premier film, plus que le second, m'a beaucoup parlé.
Alors en vous parlant, juste une petite... juste, je fais vite. Juste pour vous dire, c'est une petite expérience. Il y a moins d'un an, on avait deux forestiers sénégalais qui sont venus nous voir. Et puis je les ai emmenés au col de l'Épine pour leur montrer notre forêt, puis parler un petit peu du martelloscope et pour parler des mètres cubes justement que le forestier doit produire chaque année pour faire travailler toute une filière forestière. La filière forêt-bois en France, c'est plus d'emplois que la filière automobile. Faut le savoir. Et je lui disais, tu vois, un arbre, quand on est au pied, on le marque, mais on le marque pas pour rien. On le marque parce que il y a une raison. Et je lui ai dit, moi, quand je suis rentré à l'ONF, mon chef, il m'a toujours dit, écoute Sébastien, si tu marques un arbre, tu dois au moins avoir deux bonnes raisons de le marquer. Pas une, deux. Et alors là, quand j'ai expliqué ça aux forestiers sénégalais, chez qui les arbres, même s'ils viennent d'être plantés il y a 2 ans par le fils ou le frère d'une personne qui a besoin de se chauffer et qui a besoin de bois et qui va les récupérer en forêt juste à côté de chez lui sans se poser aucune autre question qu'il a besoin de survivre, il m'a regardé en me disant « Mais vous arrivez à vous poser la question, à vous dire… » Voilà, alors celui-là, je vais l'enlever parce qu'il est au-dessus de plus petits arbres qui, un jour, auront besoin de grandir. Et en plus, je ne sais pas moi, parce qu'il est juste à côté d'un sentier pédestre et avec la taille qu'il fait, bientôt, il pourrait déchausser et tomber éventuellement sur la tête à quelqu'un. Voilà, et donc tout ça pour vous dire qu'on fait toujours des mètres cubes, c'est notre travail, c'est ce que nous demande l'État, mais en tout état de cause, j'ose espérer qu'on est nombreux à chaque fois qu'on marque un arbre, de se dire que voilà, lui il est là depuis plus longtemps que nous en tout état de cause, et qu'une seule raison pour l'enlever, c'est jamais assez suffisant.
Cette question est pour vous trois. Qu'est-ce que vous pensez de la sylvothérapie ? Sylvothérapie, la communication avec les humains. Ben, les hommes qui communiquent avec les arbres, la sylvothérapie, ça s'appelle.
Oui, je ne connaissais pas, mais j'en ai parlé tout à l'heure. Il y a une communication à faire avec la nature d'une manière générale et avec les arbres d'une manière particulière. Alors, ce que ça induit chez l'individu qui communique, je ne sais pas. Simplement, on sait très bien qu'on a besoin, et ça a été dit, on a besoin de se ressentir un peu proche d'autre chose que l'homme, hein, ou que le chat qu'on a chez nous. Hein. On a besoin, c'est un besoin, c'est psychologiquement, on a besoin d'aller dans cette de se retrouver un peu dans cette nature afin de fuir ce qui nous pèse depuis le néolithique, c'est-à-dire la construction artificielle. Alors moi, je ne suis pas contre, hein, je ne connaissais pas, mais je ne suis pas contre aller dialoguer, pas avec les mots, mais avec le sentiment, le ressentiment, la conscience qu'on en a parlé, avec un arbre ou même autre chose, avec une fourmi, pourquoi pas. Hein. Je pense qu'on a perdu cette communication que l'homme du paléolithique avait, parce qu'il vivait directement, il n'était pas conscient de ses communications, mais il communiquait. Maintenant, on est complètement séparés, à part les arbres en ville, à qui on ne communique plus puisqu'on les coupe. Mais disons, on a besoin de se retrouver, de se ressourcer. C'était beaucoup dit, ça. On a fait deux colloques ici sur la naturalité forestière, hein, avec le VVF. Rappelez-vous, si vous n'étiez pas, tant pis pour vous. Il y a certaines personnes qui ont souligné ce besoin de se ressourcer. Ça ne nous empêche pas après de se retrouver après en pleine ville avec une voiture à un feu rouge. Hein. Mais disons, de temps en temps, peut-être de communiquer.
Se promener en forêt et profite du bienfait de ça s'appelle des douches de forêt ou des bains de forêt et certaines variétés d'arbres ont plus ou moins tel effet de bénéfique ont des effets bénéfiques différents donc c'était vraiment mis en place dans différentes zones au Japon j'ai vu un reportage il y a quelque temps
alors sur les bains de forêt, ça, je ne peux pas vous répondre. Sur la question précédente de la communication avec les arbres, bon, il se trouve que, indépendamment d'être ingénieur forestier, je suis sourcier et je travaille sur les énergies. Et je peux vous attester que sur chaque être vivant, il y a des couches énergétiques, donc sur les arbres comme sur les végétaux, et qu'on peut rentrer en connexion avec un végétal et constater sur le diamètre de ces couches qu'elles peuvent varier en fonction des messages qu'on lui envoie. Bon, vous me croyez ou vous ne me croyez pas, c'est qu'il y a des personnes dans la salle qui ont expérimenté ça. Voilà.
D'autres commentaires ?
Oui, juste, je fais une toute petite réponse.
Excusez-moi.
Il n'y a pas de souci. Voyez ma forme. Si vous venez dans mon bureau, là-haut, sur le col de l'Épine, peut-être vous profiterez de ces bains de forêt. Restez habillé, s'il vous plaît. Tout ça pour dire qu'on a des caméras en forêt de temps en temps, pas pour suivre qui que ce soit, mais pour suivre des animaux. Et je peux vous dire qu'on en voit des vertes et des pas mûres, donc je ne disais pas ça pour rien. Mais voilà, je pense que, et je ne vais pas dire que je le ressens tous les jours, mais à mon avis, je suis bien mieux tous les jours en forêt que dans une usine.
Ça sera peut-être le mot de la fin.
Dans une salle de cinéma.
Ce sera le mot de la fin. Je vous remercie d'être venu. Et donc, le prochain café scientifique sera le 14 décembre. Le thème, c'est l'eau. Voilà. Alors, nous vous espérons nombreux. À bientôt.